Je vous propose qu'on prenne place, c'est que les auteurs effectivement puissent venir. L'idée de la soirée, c'est qu'il puisse y avoir un petit échange entre, comme c'est un recueil parrainé et aidé par la Ligue des droits de l'homme, l'idée c'était de pouvoir discuter effectivement entre les représentants de la Ligue des droits de l'homme et des auteurs. Alors là quand même, c'est un petit peu les auteurs d'un côté, la Ligue de l'autre côté, on aurait pu mélanger un petit peu quand même, hein. Parce que... Voilà, ils sont plus nombreux que vous, mais quand même. Donc... voilà, donc on va changer un petit peu. Je vous laisse... Je vous propose de vous installer. Je vais couper le micro, donc...
Je pense qu'on peut, parler sans micro.
Nous, on a l'habitude sans micro, mais après, voilà, ça dépend comment ils sont disciplinés ou
disons du corps.
Ça dépend des auditoires.
Installez-vous. Donc, je vous propose qu'on va faire, comme dans les bonnes réunions, un petit tour de table pour que les gens sachent qui est qui. Alors, comme j'ai la parole, je commence avec Olivier Guénon. J'ai fait la supervision du recueil d'un point de vue éditorial. Vas-y, commence. Il faut juste présenter. Voilà.
Je suis enchantée d'être là.
Voilà. Donc, s'il faut juste dire ton nom de plume.
Prune Mathéo.
Voilà.
Camille Le Boulanger.
Danel.
Maryse Artiguelon, je ne suis pas auteur.
Jean-Pierre Dubois, moi non plus.
Président de la Ligue des droits de l'homme.
Voilà. Voilà. Et Maryse, secrétaire général adjointe de la Ligue. Ouais.
Voilà. Alain Damasio.
Dominique Hibert, secrétaire général de la Ligue, je suis le préfacier du Rage.
Philippe Gerval.
Jean-Claude Vitrange, je suis membre de la Ligue, membre du Bureau national et un peu, je m'occupe surtout de tout ce qui est nouvelles technologies au sein de la Ligue.
C'est lui qui nous filme, qui nous gère, qui nous
Corse.
Thomas Lé.
Bon, on n'avait pas prévu d'être particulièrement très structuré dans le débat. Hein. Je crois que l'idée, c'était que ça puisse être un échange un peu informel. Et pour passer la parole, je vais donc passer la parole au président qui puisse présenter ce qu'il veut sur ces questions, en fait, liées aux nouvelles technologies.
Bon, c'est très gentil. Merci. Je ne vais pas être très long parce qu'en fait, le vrai maître d'œuvre de cette affaire pour nous, c'est Dominique Guibert. Ça n'a échappé à personne. Mais ce que je peux dire, c'est d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là et vous dire que pour nous, c'est un véritable honneur parce que, comment dire, la Ligue des droits de l'homme est une association qui n'est pas née la semaine dernière et dont la maîtrise des recherches sur l'avenir n'est pas toujours à la hauteur de son glorieux passé. Pour tout dire, la dernière fois que je me rappelle une incursion de la Ligue des droits de l'homme dans le domaine des écritures non classiques, c'était pour un congrès en 1996 et on avait poussé l'audace futuriste jusqu'à faire notre affiche. Vous voyez, ça c'est notre matériel en plus. Jusqu'à faire notre affiche avec une vignette de Hergé où on voyait, c'était dans les 7 boules de cristal, je crois, il faut saisir la Ligue des droits de l'homme et la vignette suivante c'était à Saint-Nazaire et notre congrès était à Saint-Nazaire. Et on avait déjà le sentiment de l'avoir plongé dans le 21e siècle avec un peu d'avance. C'est vous dire que là, cette fois-ci, grâce à vous, nous sommes un peu plus en phase avec des formes d'expression qui pourraient peut-être toucher les moins de 60 ans de temps à autre, ce qui serait une excellente nouvelle pour nous en particulier. Bon, pour être plus sérieux, c'est vraiment très bien parce que, d'abord, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces nouvelles et je pense que ce sera un plaisir partagé. Et ensuite, compte tenu de l'investissement que nous essayons de faire monter dans l'association sur les questions de société de surveillance, vous savez que c'était le thème de notre dernier congrès, Claude en était le rapporteur, c'est vraiment essentiel pour nous de ne pas rater cette manière de poser ces questions. Voilà. Et il y a, comme dit l'autre, une petite illustration de Victor Hugo, le fond c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et bien là, le fond remonte très très bien à la surface. Donc merci d'avoir fait ça. Merci de nous y aider et de nous aider aussi à ne pas trop nous encrouter dans nos formes habituelles d'expression. C'est pas négligeable. Voilà. Et puis pour le reste, je vais passer, je pense, la parole à Dominique parce que sans lui, rien n'aurait été possible.
Ça, c'était de la politique fiction. Non, moi j'ai été ravi qu'on fasse appel à nous et que j'ai été chargé par le Bureau national de faire cette préface parce que, outre le fait que je l'ai lu pour voir un peu faire, je suis un grand amateur de science-fiction et plus exactement dans sa partie du politique fiction, celle qui consiste à pousser toujours la réalité un petit peu plus loin et voir ce qu'elle peut donner. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est on dit souvent, on nous dit souvent à nous, les politiques, ceux qui font de la politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire la politique non politicienne, on dit souvent, mais vous exagérez, ce que vous faites, c'est de la littérature. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre cette correspondance entre vous faites de la littérature, mais là, je vais vous montrer à quoi ça peut servir, la littérature. C'est celle qui peut vous montrer comment, à partir d'une situation qui est celle que nous vivons aujourd'hui, celle qui est que les gens ne refusent pas les nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies, après tout, si je n'ai rien à cacher, ça n'a pas d'importance, pourquoi est-ce que je les refuserais? Ou bien si, puisque ça me favorise, ça me facilite la vie, pourquoi est-ce que je ne continuerais pas à les utiliser? Et nous voulons montrer que les nouvelles technologies, ça pose toujours deux questions. Ça pose non, la technologie en tant que telle, n'existe que si la politique est là pour la faire avancer, pour l'utiliser, pour ne pas l'utiliser. Et nous voulons montrer à quel point c'était un problème politique, et deuxièmement, à quel point c'était une question de droit. Et qu'il n'y a à technologie sans contrôle correspondent des hommes sans droit. Et qu'il m'a semblé que toutes les nouvelles que j'ai eu le plaisir de lire en avant-première, celles que vous avez écrites, étaient représentatives de ça. À tel point, je m'en souviens une qui m'a frappé plus particulièrement, celle qui consiste à dire que il y a un des héros qui s'échappe complètement de tous ces contrôles par les ordinateurs et autres, et il s'en échappe complètement. Mais le dramatique, c'est quand on en y échappe complètement, c'est là qu'on vous repère aussi, parce qu'on se dit, un mec qui échappe complètement à tous les contrôles, c'est sûrement quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Et ce qui nous a beaucoup intéressé dans ces nouvelles, c'est de montrer qu'au bout du compte, tout est une question de collectif et de droit. Et que c'est ça qui nous intéressait de faire dans cette préface. Je vous remercie infiniment de m'avoir écrit et de m'avoir autorisé à les préfacer.
Comme je disais tout à l'heure, c'est libre. Hein. Chacun a le droit de parler, réagir, contredire. C'est l'idée. Alain.
Plutôt que je m'y colle.
De toute façon, avec toi.
Non, moi, je voudrais juste parler du sentiment que j'ai qu'on soit tous ici. Enfin, pas les 17 auteurs peut-être, mais quasiment la grosse majorité. Moi, ce qui m'a énormément plu, et il faut remercier aussi Olivier, parce que Olivier a fait le pont entre, la militance et puis l'écriture. C'est que c'est très rare pour nous de pouvoir mordre sur l'espace politique. C'est-à-dire qu'on le fait dans nos livres, mais en tant qu'œuvre individuelle. Mais c'est rare qu'on soit couplé avec une organisation comme la vôtre, la LDH, qui est une organisation militante qui apporte énormément de choses, qui se bat énormément au niveau des pouvoirs publics et au niveau de la société. Et qu'on puisse simplement faire ce joint, déjà pour nous c'était bien, parce que des fois on se sent un peu seul, à faire des livres politiques et militants, mais qui sont un peu suspendus en l'air et particuliers à ce qui se passe réellement. Donc en nous forçant un peu à agir sur ce qui se passe aujourd'hui, à réagir à des thèmes qui sont les nôtres, mais qu'on traite généralement dans un futur très lointain, et bien ça nous a permis, je pense, déjà de nous rencontrer, et puis de mordre un peu plus sur le social et le politique. Donc ça, je pense qu'on est contents de ça. Moi, je suis content de ça.
C'est bien, c'est déjà ça.
C'est déjà ça, il y en a déjà.
Il y en a déjà un content.
Allez, Jacques, un petit coup de Foucault.
C'est Philippe qui a écrit la nouvelle dont on
Oui, l'intérêt de ce projet, c'était justement de ne pas faire ce qui s'est appelé jadis la science-fiction politique française, mais de véritablement parler de l'imaginaire par rapport à l'évolution des technologies. Et donc, en ce qui concerne les droits de l'homme, ça donnait pas mal de grains à moudre. D'une part parce qu'il est évident que la technologie nous en cerne, mais en même temps, nous en profitons tous. Mais je crois qu'elle, c'est ce que j'ai essayé de faire ressortir dans la nouvelle, qu'elle nous enferme aussi dans un système qui est difficile de s'échapper. Et donc, à partir du moment où on veut vraiment arriver à se libérer complètement de toute possibilité de contact avec la technologie, ça demande un effort considérable parce qu'il faut se libérer de tout ce dont nous sommes attachés à partir. Par tous les systèmes qui existent, même les plus innocents, par exemple, soit EDF, le téléphone, n'importe quoi, nous sommes tous complètement câblés. Et donc, à partir du moment où on veut couper tous les câbles, ça demande une grande difficulté. Parce que pourquoi sommes-nous câblés? C'est ce que j'ai essayé de montrer à cette nouvelle par une espèce de jeu de mots. C'est-à-dire qu'au lieu de la fraternité, qui est donc un des principes essentiels des droits de l'homme, j'avais remplacé ce mot par le mot affinité. Parce qu'effectivement, actuellement, la fraternité, je pense qu'elle se dissout au propos de cette idée d'affinité. C'est-à-dire que ce soit par Facebook, que ce soit par d'autres systèmes qui existent actuellement sur Internet, ça n'est pas du tout la fraternité qui s'exerce, mais c'est justement le fait que nous soyons dans le même système et que chacun veut être dans le mouvement et ne pas s'en séparer. Et à partir du moment où on est inclus dans ce mouvement, eh bien, on est forcément un peu la victime du système qui se met en place et de n'importe quel système qui voudrait tout d'un coup prendre les rênes du pouvoir par tous les systèmes auxquels nous sommes reliés. Et voilà pourquoi j'ai voulu montrer ce paradoxe, ce fait que du fait qu'on passe de la fraternité à la fidélité, on est dans un système qui est très peu facile à supporter parce que chaque jour on est confronté à des intrusions dans sa vie privée qui sont de plus en plus insupportables.
Ouais. Bon, moi j'avais une question quand même parce que c'est vrai que quand on a lancé le projet, une des idées qu'on pouvait imaginer, c'était aussi de développer les nouvelles formes de résistance, ce qui était une des idées, c'est-à-dire que ce qui passe aussi d'ailleurs par les nouvelles formes de militantisme à mon avis. Et là, j'avoue que j'étais un peu déçu de ce côté-là. J'ai pas vu grand-chose. Alors, je me demandais pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir ou c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé?
Chez les auteurs.
Oui, ouais, chez les auteurs.
Il n'y a aucun espoir, on est tous foutus.
D'accord, merci, c'est super. Eh ben, écoute, on va aller boire un coup, hein, c'est ça.
Je pensais que c'était moi qui
l'avais. Ce que j'ai voulu faire en faisant cette préface, c'est un peu effectivement compenser ça, c'est-à-dire si nous pensions que tout est foutu et qu'il n'y a rien à faire, il y a longtemps qu'on aurait été imité parce que...
Et puis votre geste prouve aussi que...
Nous ce qu'on pense c'est que au contraire, mon idée c'est que contrairement à ce qui se passe souvent dans les romans, il n'y a pas à attendre de un héros la victoire. Il n'y a pas à attendre de une personne, un peu la geste habituelle de la science-fiction du type sur l'ombre de choc de John Brunner. C'est-à-dire c'est une personne qui réussit à imposer un sort différent. Nous, ce qu'on voulait montrer en faisant cette presse, c'était que nous comptons beaucoup sur l'idée que à partir des droits, des luttes collectives se développent. Et que donc, sur ces luttes collectives, c'était faire les liaisons entre les uns et les autres. Les gens qui lisent de la science-fiction et qui ne s'attendent pas forcément à lire une préface de la Ligue des droits de l'homme en leur disant « Flûte, merde, regardez ce qui risque de se produire. Vos auteurs vous montrent bien ce que peut être un monde sans droit. Battez-vous pour que le monde soit avec des droits. » Et pour ça, il y a des instruments, des gens qui se battent, qui le font. Nous essayons depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 100 ans, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la Ligue des droits de l'homme existe depuis l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire 1898. Merci, on est assez vieux.
C'est écrit derrière.
Alfred Dreyfus, Émile Zola et Victor Bach. Pour montrer que ça nous permettait de faire les liens entre les deux. Un monde sans droit, c'est un monde où les gens n'ont pas lutté pour les imposer. Et il me semblait que l'introduction par là, avec ce que vous avez fait dans les nouvelles, pouvait le montrer. C'est un peu un raisonnement miroir. Ouais.
Tu as dit, Dominique, le droit ne suffit pas.
Ah non.
Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'effectivement, on peut avoir du droit et tout un tas de systèmes qui contournent.
Mais ça, c'est comme ça depuis le début. Puisque Dominique vient de parler de l'affaire Dreyfus, la naissance de la Ligue, c'est un combat contre le droit et pour le droit. Parce que c'est un combat contre une justice militaire qui, pour nous, comme disait Clémenceau, était la justice que la musique militaire était la musique, et pour faire triompher les vrais principes du droit face à une apparence de droit qui est injuste. Et de la même façon, lorsqu'on se bat sur des textes qui renforcent, comme le PSI2 en ce moment, le contrôle social, la vidéosurveillance, on se bat dans un cadre juridique contre des textes juridiques, mais au nom de principes qui nous paraissent supérieurs. Et si je peux juste réagir à cette question, est-ce qu'on est foutu ou pas ? Moi, j'ai. Enfin, bon, indépendamment du fait que c'est quand même mieux d'essayer de faire en sorte qu'on ait une échappatoire, si on peut, mais je voudrais dire deux choses très très simples, qui ne sont pas originales du tout. La première, c'est que, en fait, le point central, c'est de lutter contre l'isolement. Moi, je ne suis pas très étonné qu'il n'y ait pas de technique particulière qui émerge de ces nouvelles. En revanche, le simple fait que des gens écrivent, que d'autres les lisent, qui partagent un certain nombre de valeurs et qui s'engagent, c'est la réponse. C'est-à-dire, toutes ces technologies misent sur le fait que les gens sont isolés face à un réseau de surveillance et de prise en charge. Voilà. Vous êtes géré individuellement, vous êtes géré isolément. Il suffit que 50 collégiens disent « je ne mettrai pas mon pouce dans ce machin pour aller à la cantine » pour que le problème soit résolu. Ça s'est passé dans l'Essonne il y a quelques années. Tant que chacun se dit « bah voilà, je vais passer au contrôle à l'aéroport, je vais mettre mon pass Navigo, puis tant pis s'il n'est pas anonyme, je vais avoir mon GPS dans la voiture, ce qui me permettra d'être bien repérable, y compris par la NSA si nécessaire. » Tant qu'on reste chacun dans notre coin, oui, effectivement, on est foutu. Mais on n'est pas tout à fait encore obligé de rester chacun dans notre coin, donc on n'est peut-être pas foutu. La deuxième chose, très rapidement, c'est quand même le côté réversible de beaucoup de ces technologies. Je veux dire, les mêmes technologies qui peuvent être dramatiquement dangereuses sont aussi des outils. Moi, je le répète toujours aux amis militants qui, légitimement, ont des inquiétudes. Je leur dis, n'oubliez pas quand même que si on n'avait pas les listes de diffusion, les mails, Internet et Twitter, on trouverait très très dur d'un seul coup d'organiser des manifs rapides. Quoi. Donc c'est la langue des hommes. Enfin, c'est très très banal de dire ça. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut ne pas s'inquiéter de ce qui est dangereux, mais il faut faire confiance à la capacité humaine de retourner les choses et de se servir des armes comme on le fait au judo. Voilà.
Je précise que le bip que vous entendez régulièrement, c'est le micro qui transmet tout.
C'est la DCRI, oui, c'est la DCRI. On est constamment sonorisé par le Valois-Pérez.
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus.
Juste pour réagir aussi à ce que tu disais, Olivier, moi je pense que si les nouvelles ne sont pas sur le mode explicite de la résistance, c'est pas par... Enfin, pour certains auteurs, je pense que c'est effectivement peut-être par désespoir, mais pour la...
Toi, tu connais les gens.
Non. Pour la plupart des autres, c'est des stratégies littéraires, c'est-à-dire que quand vous prenez un livre comme 1984, par exemple, pourquoi il est aussi puissant, pourquoi il est aussi impactant comme livre, c'est qu'on part et on s'identifie à un personnage qui se fait absolument broyer par le système et broyer d'une façon extraordinaire, parce qu'à la fin même, il ne sait même plus qu'il a été broyé. Quoi. Et quand vous lisez le livre, moi, la première action que j'ai eue quand je l'avais lu, j'étais assez jeune, c'était un sentiment de révolte extrêmement puissant. Quoi. Et je pense que cette stratégie est utilisée très souvent dans les nouvelles comme dans les romans. C'est-à-dire qu'on fait exprès de mettre en place un héros ou un anti-héros qui subit le système, qui est broyé par ce système, pour transférer le mécanisme de révolte au lecteur. Voilà. Parce que si on fait l'inverse, moi j'ai fait l'inverse dans Zone d'or, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est-à-dire que si on crée un mouvement révolutionnaire ou un héros capable tout seul de porter la révolution... On peut essayer de créer l'identification vis-à-vis de ce héros, mais à mon avis, on délaisse le lecteur de la faculté qu'il a de lui-même prendre en charge son sentiment de révolte. Voilà. Et je pense que c'est assez postmoderne de au contraire, de transférer aux anti-héros, de les faire broyer et d'espérer justement que le lecteur... je pense que le recueil est beaucoup sur ce mode-là et je pense que c'est pas plus mal. C'est peut-être plus efficace, plus puissant.
C'est ce que je disais avec Dominique Guibert tout à l'heure, on disait on ne fait pas de littérature avec de bons sentiments, mais avec de bonnes inquiétudes, oui.
Oui,
ouais.
Oui, d'ailleurs, c'est parce que mon personnage essaye de donner d'abord une lutte individuelle, mais il y a autour de lui un mouvement qui est justement un mouvement de déconnexion. Et simplement du fait d'avoir voulu réagir d'une manière totalement individuelle, il est pris dans une sorte de verrou, parce que l'entreprise qui l'a aidé à faire ça, donc qui essaye justement de libérer l'homme de cette contrainte absolument effrayante qui s'abat sur lui, en même temps les avantages que ça apporte, eh bien, quand elle voit qu'elle ne peut plus rien faire pour lui, elle en fait une victime. Donc elle en fait un héros, elle en fait un martyr, et à partir du moment qu'il y a un martyr, ça peut déjà amener d'autres gens à réfléchir.
Moi, j'ai pas été étonné qu'il y ait des nouvelles sous cette forme-là. Ce qui m'intéressait, c'était de se dire que une organisation comme la Ligue, dont moi, On plaide toujours pour l'intervention sociale, sur la nécessité de l'intervention sociale. Et si des nouvelles aussi effrayantes qu'elles puissent être amènent les gens à penser qu'il est absolument nécessaire qu'ils se livrent à l'intervention sociale, là on a réussi notre coup. Et on se retrouve dans une situation où les gens se disent « Bon, la technique n'existe pas en tant que... les nouvelles ou les technologies n'existent pas en tant qu'horreur qui ne fait que s'appliquer et sur lequel on ne peut rien. » Je dois insister quand même sur la technique, elle est contingente du temps où elle vit. Et que ce qui est important, et que les gens doivent se rendre compte, c'est que c'est la politique qui commande la technique. C'est les politiques qui utilisent, c'est les politiques de sécurité qui utilisent un certain nombre de systèmes. Et que combattre la technique en disant c'est la technique en tant que telle qui est mauvaise ne donne pas d'extraordinaires résultats. Combattre la politique qui utilise des technologies pour les dévoyer vers le contrôle social, là, ça devient un problème intéressant. Et que ces nouvelles nous y invitent. Pour ne pas vivre ce ciel de ce ciel lourd, ce béton froid, cette technique horrifiante, intervenons avec les instruments qu'on se donne, qui peuvent être des associations, des organisations, des syndicats, des groupements. La diversité est forte, vous le savez aussi bien que moi, et qu'il y a des places pour agir.
Bref, on n'est pas fatigué.
Je ne sais pas. Quelqu'un veut dire.
D'autres gens.
Non, parce que c'est quand même des gens qui savent parler hein, autour de la Ligue, c'est des professionnels.
Pointable.
Voilà.
Vous empêchez de parler tout le temps.
En plus, le président est sous la verre générale. Alors, là, c'est fini.
Vous n'avez pas de bol.
Moi, j'aurais une question en fait.
Attends.
Vas-y.
Ah, très bien, c'est excellent. Merci, Jacques.
Je ne suis pas près d'accord avec rien. Si sur la question qu'effectivement, il n'y a pas d'autonomie de la technique et que c'est toujours une question politique, la question de la technique. Après, moi, j'ai les abstractions du droit contre le droit, avec le droit, la justice. C'est toujours la justice, le droit, c'est toujours le droit, le contrôle du contrôle, c'est toujours du contrôle, voire plus de contrôle. Et je crois pas qu'on vit dans une société sans droit. Je crois qu'au contraire, on vit dans une société qui est de plus en plus justiciée, justiciable, où tous les comportements, y compris les comportements militants, seront passibles du tribunal.
Mais ça vient du fait que le droit peut signifier deux choses.
Je ne pense pas que le droit puisse signifier deux choses.
Alors là, on va avoir un vrai débat.
Enfin, ça s'anime.
On va avoir un vrai débat. On va avoir un vrai débat parce que je ne vous le souhaite pas, mais si vous vous retrouvez dans un commissariat de police en face d'un type un peu agressif, il n'y en a pas dans la police française, hein, mais c'est une hypothèse d'école, imaginons que ce soit dans un autre pays, et que le type vous dit avec cet air sympathique et courtois qui caractérise genre d'intervention, tu crois que tu as des droits, tu n'en as aucun ici. D'un seul coup, vous allez vous trouver un petit peu privé de quelque chose. Parce que ça veut dire que le droit, comme la langue, comme d'ailleurs la technologie, c'est parfaitement contradictoire. C'est-à-dire que c'est en même temps un outil qui peut servir à l'oppression et aussi un outil qui peut servir à la libération. Le fait d'avoir droit à un avocat quand on est en garde à vue, c'est pas rien.
Ah non, c'est sûr.
C'est pas rien. Il y a les droits, quoi. Il y a le droit et les droits.
Le droit n'est que la retranscription dans les faits de l'état de la lutte.
Ben oui, c'est-à-dire... Oui.
La lutte pour les droits, différente de ça. Il n'y a pas d'abord la lutte pour les droits, l'organisation politique. C'est l'action de lutte qui, forcément...
Bien sûr, on est d'accord. On est d'accord.
C'est droits même.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas essentialiser le droit ni du côté du contrôle social et de la répression, ni du côté d'un instrument magique d'émancipation. Je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est un instrument qui est un enjeu, qui est une arme, qui est au milieu des protagonistes. Et c'est pour ça que la Ligue des droits de l'homme, depuis son origine, dit la défense des droits n'est rien sans l'exercice de la citoyenneté. C'est-à-dire le droit, ce n'est pas une affaire de juriste, c'est une affaire de citoyen. Ou alors, en effet, ça n'est plus qu'un instrument de contrôle social. Donc on en fait ce qu'on veut. C'est comme un couteau.
Oui.
Non, je voulais juste dire que le droit, c'est une chose, le droit qu'on nous donne de faire des choses, mais il y a aussi ce qu'on s'autorise à être, à penser et à faire, qui est quelque chose qui nous est transmis par l'inconscient collectif, par notre éducation, Mais il y a des impossibilités et des incapacités qu'on se transmet aussi de génération en génération qui font que le pire oppresseur, c'est peut-être, il est peut-être intérieur, c'est peut-être nous-mêmes, et que quand on se croit incapable de quelque chose, quand les limites de notre imagination ne permettent pas de penser, eh ben on estime normal que nos droits soient limités, que ceci, que cela. Donc c'est avant tout aussi de prendre conscience des interdits qu'on a à l'intérieur et d'apprendre à ses enfants ou aux générations, quand on n'a pas d'enfants, aux générations qu'on fréquente plus jeunes, qu'on a le droit de s'opposer à des choses, qu'on a le droit d'avoir de l'estime pour soi, l'estime nécessaire pour lutter contre l'oppression. Enfin,
il n'y aurait pas un bulletin d'adhésion.
C'est très important, il ne faut pas attendre comme des bébés infantilisés qu'on nous octroie des droits. Il faut d'abord avoir suffisamment d'estime pour soi, de respect de soi-même. Et c'est pas évident, même les gens les plus orgueilleux cachent souvent à l'intérieur un gros manque. Il faut avoir l'estime de soi nécessaire pour réclamer ce qu'on ne nous donne pas. Donc l'important, ce n'est pas qu'il y ait une société qui nous donne des bons droits, que tout soit bien correct envers nous. C'est qu'on soit suffisamment solide et suffisamment incarné en nous, que les parents nous aient transmis suffisamment de confiance pour qu'on puisse estimer de la légitimité ou non d'interdit. Parce que si on dépend de ce qu'on nous donne ou ce qu'on ne nous donne pas, et qu'on est des espèces de biberonner ce qu'on nous donne, on dépend pas de... Enfin, faut se responsabiliser, faut pas attendre que ça arrive d'une espèce de squelette exogène. Quoi. C'est nous qui devons...
C'est ce qu'on quiert.
Les droits, c'est très important, l'éducation. Moi, j'ai pas d'enfant personnellement, mais j'estime que moi, j'ai mis du temps à me libérer de tout ce qui était derrière moi, pas uniquement des parents, mais de la société autour de moi. Et tant que à l'intérieur, on n'a pas fait ce nettoyage, on peut vivre dans une société idéale sans en profiter absolument pas. Oui, c'est tout ce que je voulais dire.
Émancipation.
Parce qu'on parle de l'individu. L'individu, il n'est pas libre, il ne naît pas libre, il ne devient pas libre à l'adolescence ou à la majorité. Il faut la conquérir, la liberté. Après, on peut parler du niveau supérieur qu'est la société, les lois... Mais des lois faites pour des gens qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes ne servent à rien. Donc il faut faire attention à l'éducation des enfants, ça je veux dire.
On est aussi, on s'est essayé de lancer un autre débat, face à une société où finalement on peut avoir les droits et on peut avoir un système qui finalement va être, j'allais dire, respecter les droits, même un système de nouvelles technologies qui va respecter les droits. Simplement, comme on est une société aujourd'hui, clive, effectivement, ceux qui ne sont pas des citoyens à plein, finalement, vont être, eux, oppressés par des systèmes qui, sinon, vont respecter les droits. C'est clairement, par rapport aux logiques de sans-papier, etc., ouais. Aujourd'hui, on est dans cette difficulté. Et je pense qu'une des problématiques qu'on a aussi, c'est d'arriver à rendre militants des gens qui, finalement, sont de plus en plus confortables avec la société actuelle, parce que ça apporte sécurité, etc., et qu'on peut avoir un système qui va respecter les droits des citoyens du moment où vous êtes français. Mais que si vous n'êtes pas effectivement considéré comme français, là vous allez vous retrouver dans une société oppressive. Et là aussi c'est un risque, je trouve, qui existe, parce que je pense qu'on va avoir de plus en plus de mal à motiver un militantisme citoyen reconnu pour défendre les droits des autres. Je ne sais pas si je ne suis pas très optimiste.
La question, c'est la fragmentation. Enfin, l'analyse que fait la Ligue depuis longtemps, c'est que la politique des gouvernements actuels, c'est une politique de fragmentation sociale.
Et donc
la réponse, effectivement, comment faire de la solidarité aujourd'hui dans le contexte actuel. Mais une des réponses qu'on donne aussi, c'est que la citoyenneté, ça ne s'octroie pas, ça se conquiert. Les sans-papiers sont des citoyens, tout simplement parce qu'ils agissent en citoyens. Qu'on ne leur ait pas donné la nationalité, c'est une autre question. C'est pas les gouvernants qui vont nous octroyer cette qualité-là. Après, la question, c'est effectivement qu'on est de plus en plus segmenté. Aujourd'hui, le code du travail est beaucoup plus protecteur qu'il y a 20 ans, mais il y a de moins en moins de gens qui sont couverts par le code du travail. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en situation précaire, atypique, machin. Et autrement dit, dans une boîte, il y a 25 statuts différents. Et la solidarité n'est pas facile à organiser. Et ce n'est pas seulement vrai dans les entreprises. Mais en même temps, il y a quand même, me semble-t-il, depuis quelques années, un réveil de la conscience de ce risque. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même sans arrêt la recherche de convergence dans les mouvements. De plus en plus, entre des catégories différentes. Après, il faut essayer de pousser dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose qui n'était pas conscient chez les gens qui animaient les mouvements au même degré il y a quelques années. Mais c'est l'enjeu principal. Hein. Le but des gouvernants actuels, c'est les lycéens restent dans les lycées, les postiers restent dans les postes, les cheminots restent dans les chemins de fer, les retraités restent à avoir peur devant la télé, et les vaches seront bien gardées. Et Madame Bettencourt aussi, d'ailleurs. Voilà. Parce qu'elle le vaut bien. Et ce que j'ai entendu, c'est nous le valons bien. Voilà.
Il faut prendre la parole. Hein.
Ah ouais.
Sinon,
ouais.
Ça fait bouffer.
Ouais,
sinon, ça fait bouffer. C'est la lutte. Hein.
Ouais, c'est la lutte. Extension de. Ouais,
je suis pas très convaincu par tout ce qui a été dit. Nos hommes politiques sont plus cyniques que ce qu'on veut bien croire. Par exemple, on a réussi à envoyer des gens sur la Lune, on n'arrive pas à régler le problème des banlieues. On n'arrive pas à le régler parce qu'on ne veut pas le régler, c'est tout. On ne veut pas le régler parce que ce problème-là, il est très pratique dans une société. Ça crée un ennemi intérieur qu'on peut brandir sans arrêt au moindre problème. On n'arrive pas à régler nos problèmes avec l'islam parce qu'on ne veut pas les régler. On ne veut pas vraiment engager le dialogue parce que ça permet de brandir des menaces sans arrêt. Je crois que les gouvernements interviennent de plus en plus dans la sphère privée parce qu'ils se rendent bien compte... qu'ils ne veulent pas intervenir sur l'économie, la macroéconomie mondiale, ça leur dessert, virer d'intervenir là-dessus. Ils ont des intérêts énormes. Et en intervenant sur la sphère privée, ils existent. Ils donnent l'impression qu'ils ont besoin d'exister, qu'on a besoin d'eux, ils sont là pour nous protéger, on a besoin d'être protégés. Tous les jours, on entend ça, on a besoin d'être protégés. Et je pense que tout ce qui est fait actuellement par les gouvernements en termes de sécurité, en termes de menaces terroristes, tout ça, ça n'a en fait compte qu'un seul but réel, c'est que toute la machine financière, toute la machine économique, tous les échanges, tout ça, puisse continuer comme si de rien n'était. Et on l'a très bien vu au moment de la crise des banques. Il faut je ne sais pas combien de milliards pour régler le problème du paludisme dans le monde. Quelques milliards. Il faut quelques milliards pour régler le problème de la faim dans le monde. On a trouvé des centaines de milliards pour les banques. Moi, j'aurais préféré que les banques disparaissent et qu'on règle le problème du paludisme et de la faim dans le monde. Personnellement, peut-être toujours écouter. Mais voilà, je pense qu'on vit dans un monde où c'est bien de faire des manifestations, etc. Mais en fin de compte, pour qu'il se passe quelque chose, il faut manifester très très fort, très violemment. Et ça pose une autre question, ça pose la question du terrorisme. Et... je ne sais pas jusqu'où on a le droit d'aller en termes de réaction. Donc moi, j'ai des enfants, je n'irai pas poser des bombes, j'écris des livres. Mais je peux comprendre des gens qui, aujourd'hui, en France, ont envie de faire exploser le château de Mme Bettencourt ou ont envie de brûler des 4x4. Je peux comprendre tout à fait ça, parce qu'on arrive à une espèce de moment où trop, c'est trop. Donner 500 milliards de dollars aux banques, ben, c'est trop. Il n'y a pas à sauver les banques.
Marie.
Ouais, je voudrais peut-être rebondir sur la question du terrorisme, enfin, si je puis dire, parce que en fait, c'est vrai que d'abord le terrorisme, c'est aussi un moyen de nous surveiller. Toutes les lois qui sont faites, tous les systèmes de surveillance sont faits au nom de la lutte contre le terrorisme. Non, mais oui. c'est pas une opposition, hein, c'est quand je dis rebondir, c'est aussi, bah, je crois que on n'est pas si loin de la fiction, quoi. On est dans cette société, ceux qui nous veulent du bien veulent nous surveiller, et pour nous surveiller, ils ont mis des tas de dispositifs en place. Bon, on pourrait dire que c'est de la fiction, mais c'est plus de la fiction.
Vous prenez le problème, Robert, ils ne veulent pas nous surveiller, bah, ils veulent continuer à faire marcher leur système à eux, et même quand ça va mal, la seule question qui se pose, c'est comment gagner plus. C'est pas comment régler le problème, c'est comment profiter de la situation.
Il n'y a pas de contradiction entre les deux.
Comme vous disiez, ils se nourrissent de toute façon des problèmes.
D'autant plus que la surveillance est aussi une manière de gagner beaucoup d'argent. On aurait pu inviter M. Boer, il nous aurait expliqué ça très très bien.
Il
fait son
échographie.
Donc t'as peur.
Mais
moi, si tu veux avoir une voix dissonante, je ne crois pas au complot généralisé ni à la. Donc
Non, ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on est dans une fragmentation et on est dans un... C'est ce que tu disais. Enfin, moi, je ne suis pas certain que nos politiques soient si cyniques que ça. Je pense qu'en revanche, ils ont une réaction très... en permanence court-termiste, avec effectivement une juxtaposition de petites mesures qui, au final, se révèlent être particulièrement liberticides sur un certain nombre de choses. Je ne suis pas certain, pour le coup, qu'il y a un grand plan pour mettre tout le monde...
Je ferai juste observer une chose, si vous permettez, c'est que les politiques, ça n'existe pas plus que les auteurs littéraires.
C'est vrai, c'est ce que j'allais dire.
C'est-à-dire...
Mais
ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible de dire voilà ce que pensent les auteurs de science-fiction aujourd'hui en France. Et c'est la même chose pour les politiques. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a les bons, les méchants, et de faire de la propagande d'un camp ou un autre. Je veux simplement dire que ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est aux effets de système. Parce que moi, je suis assez d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites, c'est-à-dire notamment avec le fait que le sécuritaire ou l'état pénal, ça sert aussi à faire passer des reculs sociaux et à protéger toute une série d'opérations financières. C'est très clair, tout ça. Et la nécessité de gueuler. Mais en même temps, par exemple, il y a eu tout un truc sur le net autour du fait, le 11 septembre, ça a été organisé par la CIA, par le Mossad, etc. Bon, pour moi, c'est du fantasme, ça. Voilà. Mais si ça marche, c'est parce qu'effectivement, ça a rendu un énorme service à George Walker Bush et plus exactement au type qui était derrière, parce que c'était qu'une marionnette, ce garçon. Et donc, effectivement, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a même pas besoin de payer Ben Laden pour qu'il le fasse. Et c'est la réponse que je voudrais faire, moi. Le rêve de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, j'en suis certain, c'est qu'il y ait un gros clash dans les banlieues, si possible une bombe qui saute, et si en plus il y avait 2-3 flics qui pouvaient y passer, alors là, on aurait notre super état d'urgence. Ils n'attendent que ça. Hier, à la porte des lycées, il y a eu des dizaines de provocations. On vient de faire un communiqué là-dessus. Le gars à Montreuil, là, qui s'est encore fait toucher à l'œil, comme l'an dernier. L'an dernier, la CNDS avait dit il y a eu violation des règles. Et ils n'attendent que ça. Il y a 3 semaines à Dugny, ils sont descendus dans les HLM de Dugny en enfonçant les portes et en contrôlant les gens chez eux pour faire réagir les familles, juste pour avoir un bon clash. Ça n'a pas marché. Donc, il y a aussi ce piège-là. C'est-à-dire que c'est un piège fantastique. Bien sûr que la colère est compréhensible. Bien sûr qu'il y a des gens qui en ont marre. Mais en même temps, c'est un jeu. C'est un jeu dans lequel on tombe ou on ne tombe pas. Et moi, je pense qu'effectivement, ça demande beaucoup de détermination, beaucoup de force. Mais il ne faut pas se tromper. Hein. Je veux dire, vraiment, le meilleur allié aujourd'hui de la société de surveillance, c'est le poseur de bombes. Même s'il ne le sait pas. Et une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, parce que moi, il y a une autre chose que je dirais aussi par rapport à ça. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur les politiques en France, hein. Mais la faute à qui? Je veux dire, moi, j'ai fait je ne sais combien de missions pour la FIDH dans des pays où on n'a pas le quart de la possibilité de la queue d'une chance de choisir le prochain gouvernant. Nous, on l'a quand même un petit peu, y compris la possibilité de militer pour faire en sorte que les candidats présentés par les partis soient plus les mêmes et qu'on ait d'autres forces politiques qui émergent. Donc d'une certaine façon, et c'est pas pour renvoyer la balle aux citoyens en disant c'est de votre faute et vous n'avez qu'à vous frapper la poitrine, mais d'une certaine façon, l'état de la société politique française est le reflet de quelque chose de plus profond dans notre société. Moi, quand j'étais lycéen, étudiant, on disait si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. C'est toujours vrai.
Non, mais il y a une chose,
c'est bien que vous finissiez sur cette note-là, parce que étant moi-même étudiant, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a un peu troublé dans les discussions jusque-là, et qu'on peut retrouver même un peu dans le titre. Donc, quand on dit « ceux qui veulent du bien », on parle de « eux », on parle de « les politiques », on a tendance à... C'est des questions qui sont justes, tout ce qui a été dit globalement pour moi est juste. Mais c'est vrai qu'on a tendance, et c'est un peu une limite de la science-fiction, à mon sens, à tomber dans un manichéisme un peu global, en fait. Et je dis pas que d'apporter une solution, mais je pense que c'est une question qu'il est important de traiter avec une grande prudence. On parlait de 1984 tout à l'heure, on disait Big Brother, etc. On dit il n'attendait que ça, mais je pense que pour moi la situation est quand même un brin plus compliqué que ça, et que il y a une part de responsabilité de la citoyenneté, il y a une part de contexte global qui n'est globalement, à mon sens, pour mon ressenti de jeune, plus au militantisme. Je pense que en tant que jeune, je ne suis pas très militant, je ne connais pas beaucoup de gens très militants, et c'est vrai qu'il y a une sorte de, je sais pas si c'est du découragement ou un dédain pour la chose politique de manière générale, qui fait que qu'ils se démerdent, quoi, au bout du bout. Et bon, après, je ne dis pas que c'est une bonne chose.
C'est pas qu'ils se démerdent, c'est qu'ils nous démerdent. Ouais.
Non, je pense que c'est qu'ils se démerdent et qu'ils nous foutent la paix. Je pense que... Moi, je le ressens plus comme ça.
Ça, c'est terrible.
Et nous en a... Enfin, après, je...
Ça, c'est l'illusion.
Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure et dire que les jeunes, maintenant, n'ont plus rien à faire, politique ou quoi, c'est pas mon propos. Mais... Je pense qu'il faut éviter de systématiser les problématiques comme ça.
Mais pour en revenir aux banques, justement, ce qui est important, c'est que les banques existent et qu'elles sont très puissantes. Et pourquoi? Parce qu'on est arrivé à une démétallisation progressive de l'argent. Parce que je me souviens très bien, dans le temps, quand on travaillait, on vous donnait une enveloppe à la fin de semaine et chacun avait de l'argent des billets de banque. Bon, petit à petit, les banques ont réussi à amalgamer de force, c'est là que la résistance aurait déjà dû se faire. C'est que aucun syndicat ne s'est opposé au fait qu'on n'ait plus le droit à distribuer de l'argent et des billets à des gens et qu'il fallait systématiquement se faire payer par les banques, donc ils prenaient un pouvoir de plus en plus grand. Et là, après, ce pouvoir de plus en plus grand qu'ont acquis les banques en acquisant l'argent de tous les salariés, après, on a dématérialisé l'argent au point que maintenant, plus personne n'a plus le droit de dépenser, d'acheter quelque chose avec quelques billets dans sa poche. Je trouve que ce système-là, si la résistance était opérée contre les banques à cette époque-là, les banques n'auraient pas cette puissance qu'elles ont aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut intervenir très tôt quand quelque chose intervient, sinon, immédiatement, on les prive peu à peu dans un réseau qui est totalement... impossible de lutter, on ne peut pas lutter contre, parce que cette dématérialisation générale des choses, le fait que maintenant on n'a plus de pouvoir,
c'est lié au blanchiment, enfin à la lutte contre le blanchiment. Pardon, il y avait une intervention dans la salle.
Mais en général, c'est en gros, chaque individu a délégué quelque chose de court, c'est-à-dire gérer des comptes d'argent. Mais on peut parler aussi de la police, l'armée, etc. Chacun de nous a délégué.
Ça s'appelle la division sociale du travail.
Ça peut gérer collectivement. Donc la question, c'est à partir de quel moment ça bascule dans le négatif. On donne la liberté, on donne sa liberté pour, on va dire, se faciliter la vie. Mais à partir de quel moment ça bascule? Parce que si on est libre de la nature, on ne survit pas à la vie. Donc on va déléguer, on va se regrouper, etc. À partir de quelle masse critique, à partir de quel moment, ça devient très négatif.
C'est comme pour les technologies de surveillance. Le problème, c'est où on met le curseur. C'est toujours ça le problème. Je pense qu'on se pose tous la question, où on met le curseur.
En tout cas, c'est
où est-ce qu'on passe de la prévention à la surveillance, au contrôle? C'est insidieux.
Je trouve très bien que vous disiez en tout cas que le but, c'est pas qu'on se retrouve tout seul et en autarcie. Hein, c'est ce que je veux dire.
C'est tellement insidieux.
Au secours.
Moi, je voudrais simplement ajouter quelque chose qui est très important, il me semble. Et c'est un peu plus technique. C'est quand même que le marché de la sécurité, c'est 20% de croissance chaque année. Et il faut regarder, il y a la concomitance entre deux choses. La concomitance entre la société... industrie finance, enfin l'ensemble industrie finance et la concomitance entre le système politique. Les intérêts sont totalement communs. Le système industrie finance a intérêt à surveiller l'ensemble des citoyens. Pourquoi ? Tout simplement pour connaître ses goûts et pouvoir influencer sur ses possibilités d'achat à long terme ou à moyen terme. Et le système politique a tout intérêt à savoir quel est le potentiel de dangerosité des individus. Donc c'est des systèmes qui sont complètement concomitants, qui marchent ensemble. Il suffit simplement de regarder ce qui s'est passé en 2006 avec le livre bleu du Gixelles, où dans le livre bleu du Gixelles, on disait tout simplement qu'il fallait habituer les enfants dès l'âge de la maternelle au système de surveillance dans lequel on le mettait. Et là, c'est les industriels, avec leur plus grand cynisme et leur plus grande arrogance, qui disaient ça. On le retrouve difficilement maintenant, ce texte, mais il est tout à fait clair. Vous le retrouvez dans Big Brother Awards, vous trouvez ce texte. Et puis, il suffit encore simplement de regarder l'Alopsie 2, qui est le texte qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale, parce qu'il est très significatif de ce qui se passe. Ça veut dire loi d'orientation et de programmation de la performance de la sécurité intérieure. Quand on parle de performance de la sécurité, je pense qu'il n'y a pas de doute quant à où, l'endroit où on veut nous faire aller. Il s'agit bien d'un système qui est un système basé sur la finance, basé sur le profit, et un système qui fait fi de l'ensemble des droits fondamentaux des citoyens.
Bon. Il n'y a personne qui veut finir sa note positive là, parce que...
Voilà.
Excusez-moi.
Non, mais je la recadrerai là.
J'aurais dit un truc pire. De toute façon, les industriels qui fassent de la surveillance ou autre chose, les industriels ou les financiers, ils sont là pour faire de la monnaie. Donc tant qu'on leur interdit pas quelque chose, clairement, ils font de la monnaie avec.
Je sais pas.
Si, Olive, c'est la vérité. Si c'est possible, ils font de la monnaie avec.
Autorise-les. Il y a une chose à cloner des autres. Je finis là-dessus. Enfin, tout au moins, ce que je. Hier, Hortefeux a dit qu'il voulait mettre un amendement complémentaire qu'il a déposé à l'Assemblée nationale, tout simplement pour que toutes les empreintes ADN, enfin toute la collecte de salive et pour déterminer l'empreinte ADN, soit financée par les assureurs. Parce que c'est eux qui ont besoin de ça. Vous imaginez, jusqu'à Bourvin.
Ça m'étonnerait qu'ils soient d'accord. Les assureurs en question, des conseils d'esprit, en général, ils sont pas d'accord.
Ça dépend s'ils peuvent récupérer les données.
Non, c'est pas les données, c'est
non, mais, bon, faire aboutir les enquêtes. Cela dit, moi, je vais essayer de finir sur une note optimiste. Moi, je pense que tout ça doit se régler dans le débat. C'est-à-dire que ce que je trouve dommage aujourd'hui, peut-être, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'on est un peu face à un gouvernement autiste. Qui n'écoute pas.
Un peu,
ouais. Et qu'aujourd'hui. Ouais.
Par moment, oui, c'est vrai. On est pris d'un doute.
Non, mais d'une manière générale, quand même, c'est vrai qu'on est dans une société où, contrairement à ce qu'on peut croire avec Internet, les débats, les machines, etc., il n'y a pas de débat. Je trouve qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de difficultés. Enfin, dès qu'on est sur des sujets un peu complexes, et je pense que typiquement aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas une réponse simple sur l'ensemble de ces questions, je trouve qu'il y a une pauvreté du débat. Enfin, personnellement, en tout cas, moi, ce qui me motivait aussi en proposant ce livre au départ, c'était parce que je trouvais essayer de réintroduire une complexité aussi dans un certain nombre de débats et toucher les gens sous une forme littéraire.
Et du contradictoire.
Et je pense qu'il est important, effectivement, de pouvoir discuter avec tout le monde, même Hortefeux, si vous discutez, il n'y a pas de souci.
Et c'est une raison de plus pour nous de vous remercier. C'est vraiment une raison de plus alors pour nous de vous remercier parce que nous pensons ça aussi et nous pensons qu'un des thèmes les plus importants qu'on puisse relayer vis-à-vis des citoyens, c'est de dire on vous prend pour des imbéciles. Et j'essaie de rester poli. Parce que le discours populiste, c'est un discours qui aura des pâquerettes avec les formules du bistrot, avec les fautes de français bien travaillées, dit on ne va pas se mentir, c'est bien simple. Et c'est tout est simple, tout est tout le temps simple. Et on prend les gens pour des andouilles. On le fait pour la retraite, on le fait pour tous les sujets. Donc, restituer un peu de complexité, dire aux gens, vous n'êtes pas si bêtes qu'on vous le dit. On peut discuter de ces choses-là, on peut voir que les choses sont compliquées. Il faut parier un peu sur l'intelligence des citoyens de temps en temps. Ça me paraît une bonne idée.
Voilà,
en tout cas, merci de nous aider.
Ouais, un petit mot aussi là-dessus. Moi, je crois qu'il y a un problème il y a une question de langage aussi qui a apporté le recueil. C'est que quand on lit, bon, les discours politiques, on le sait, une langue de bois extraordinaire et maintenant, ils appellent ça même des éléments de langage qui donnent à chaque ministre et puis qui reconduisent. Mais alors, pour parler de l'ADH aussi, quand on lit les communiqués et tout, il y a aussi un langage propre à l'ADH, comme il y a un langage propre aux grosses organisations politiques, qui parfois n'est plus audible. Ou alors, pour être audible, il faut rentrer dedans, prendre le temps, lire bien le tract. Et je crois que ce que permet ce recueil aussi, c'est d'amener une mobilisation potentielle, en tout cas, avec un langage complètement différent, qui est un langage affectif, qui est un langage sensuel, qui est un langage qui met en scène des situations, qui met en récit des situations, et qui permet peut-être de rendre sensible, vibrant, quelque chose qui n'apparaît pas nécessairement dans les politiques, puisqu'on manie régulièrement les mêmes concepts, et c'est difficile d'ailleurs de casser ce langage au niveau militant, et je crois que c'est ce qu'apporte aussi peut-être le livre dans ce cadre-là.
Encore. We want more.
Je pense qu'on pourrait faire un deal, on pourrait lui demander de réécrire notre acte.
Jacques, ça va être plus difficile. Le droit n'existe pas.
Prenez les articles de la Déclaration des droits de l'homme et faites une nouvelle sur chaque article.
Mathias,
soit audible. Un recueil sur la. Je suis pas sûr qu'il va bien.
faire collectif.
Bon. Ou alors faut qu'ils aient pris un truc avant.
Non, il y a peut-être
des contracteurs.
Oui, oui.
Je voulais
apporter une nuance. On a parlé de droit tout à l'heure. Mais le droit, il faut aussi les faire appliquer. Donc, il faut aussi le gouvernement ou un État ou des fonctionnaires qui sont capables de protéger les citoyens. Alors, évidemment, ça rentre en contradiction avec ce qu'on vient de dire, puisque à force de, pour protéger les citoyens, il faut aussi les surveiller. Mais il interdit, par exemple, de battre sa femme, mais pourtant, toujours, il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Il interdit de surveiller ses employés, et pourtant, il y a des entreprises qui le font. Donc, je suis un peu gêné parce que des discours disant le gouvernement, c'est le mal.
Ah, dans le. S'en défendre. On n'a jamais dit ça. Hein.
Tout est vrai, je veux dire. Tout est compliqué. Il faut aussi que quelqu'un, collectivement,
mais moi, enfin, il y a une chose très importante, en tout cas pour nous, mais je pense pour tout le monde ici ce soir. Nous ne confondons pas l'existence de l'État avec les gens qui aujourd'hui sont au pouvoir. Moi, je ne confonds pas la police avec les dérives d'un certain nombre de policiers. La Ligue des droits de l'homme l'a dit et le redira je ne sais pas combien de fois. On a besoin d'une police dans une société, mais d'une police qui respecte les droits des gens. Ça, c'est clair. Ça, c'est extrêmement clair. Ben mais le problème, c'est qu'effectivement, dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de banque, on n'aurait pas besoin de police, on n'aurait pas besoin d'argent, on n'aurait pas besoin d'électricité, coupons-la, on n'aurait pas besoin de micro, on n'aurait pas besoin de quoi que ce soit qui puisse limiter notre liberté absolue. Le problème, c'est que pour le moment, on n'y est pas encore tout à fait. Moi, je ne vais pas renoncer au lendemain qui chante, mais pour le moment.
Voilà.
L'électricité, ça sert aussi à la Gégène, hein.
Bon, alors ce sera le thème du prochain débat, mais voilà. David, tu vas répondre. Les policiers ont-ils une morale? Non, je déconne.
Merci. Il y en a. J'allais bien commencer.
Ça dépend lesquels. Les policiers ne sont pas tous pareils non plus. Il y en a.
Bon,
non,
je rappelle.
Non, ben, c'est comme ce qu'on disait pour les politiques. Le problème, ce n'est pas la fonction, c'est ceux qui l'incarnent.
Bien sûr. Moi, en 2005, j'ai passé des soirées avec des types qui étaient commandants de CRS, qui essayaient d'éviter que des collègues à eux fassent des andouilles avec des gamins le soir. Et ils calmaient le jeu pour essayer d'éviter justement qu'il y ait des violences. Ben, je trouvais ça très bien. Voilà.
Et bien sûr, cette ode à la police, à moins que c'est une dernière. Il y a des questions dans la salle, profitez-en, c'est vrai que. Tu veux dire quelque chose?
Oui, bien sûr qu'il est
bon. Oui. Non, mais vous êtes, il y a des interventions, des questions, des remarques. Sinon, il y a des livres à vendre, me fait remarquer l'éditeur. N'hésitez pas, ils sont pas chers. Et il y a un buffet. Si vous avez acheté un livre, vous avez le droit à prendre un...
C'est un livre, une bière.
Un livre, une bière, voilà.
Et il y a aussi du corbière.
Olivier, il y a aussi une BD qui est gratuite.
Et il y a une BD... Ah non, mais tu casses le marché, Marie. J'ai une BD gratuite. L'horreur.
C'est ça. Elle est là-bas.
Oui, absolument. Sous surveillance.
C'est un petit peu dans le...
Merci, je pense que l'idée maintenant c'est que vous puissiez discuter.
Merci à tous.